VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la contestation en Guinée. Le président guinéen Alpha Condé devrait fixer sous peu la date d'un référendum constitutionnel malgré les protestations contre ce que l'opposition dénonce comme une manœuvre du chef de l'État pour briguer un troisième mandat fin 2020. Ce référendum pourrait être couplé avec les législatives prévues le 16 février, a déclaré à l'AFP une source proche de la présidence guinéenne sous couvert d'anonymat. Pour sa part, le gouvernement note dans un communiqué jeudi soir que le Conseil des ministres a proposé au président la fixation d'une date appropriée de tenue du référendum. Une annonce qui risque d'accroître les tensions déjà vives en Guinée. Des troubles ont encore fait 3 morts jeudi à Labé, l'un des principaux foyers de la contestation. Abdourahmane Dia.
Le collectif qui anime la contestation n'avait pourtant pas appelé à la mobilisation, mais les tensions sont restées vives à Labé, dans le centre du pays. La ville est en ébullition, a déclaré hier le maire Mamadou Aliou Lali Diallo, qui ajoute qu'il y a eu 2 morts et au moins 10 de blessés, pointant du doigt les tirs des forces de l'ordre. Depuis le début des manifestations à la mi-octobre, au moins 23 civils et un gendarme ont été tués dans les violences. Les organisations de défense des droits humains dénoncent un usage excessif de la force. Un collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile a fait descendre à plusieurs reprises des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans la rue. Il réclame que le président Alpha Condé renonce au projet qu'il lui attribue de se représenter fin 2020, alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. M. Condé, 81 ans, se garde depuis des mois de se prononcer clairement.
Politique en Côte d'Ivoire, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne et ex-premier ministre Guillaume Soro, qui fait l'objet de mandat d'arrêt sous l'accusation d'avoir préparé une insurrection civile et militaire, a déposé plainte à Paris en France contre le procureur d'Abidjan. C'est ce qu'on fait savoir jeudi ses avocats. Ancien chef du gouvernement et ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020, avait tenté le 23 décembre de revenir en Côte d'Ivoire après 6 mois à l'étranger. Mais après avoir appris qu'il faisait l'objet de mandat d'arrêt, l'ex-leader rebelle était reparti en avion vers l'Europe. Plusieurs de ses proches, dont des députés, avaient été ensuite arrêtés. Au Sénégal, le parti présidentiel en proie à de fortes dissensions internes vient d'exclure l'un de ses membres fondateurs, Mustapha Diakaté, ex-chef de cabinet du président Macky Sall. Monsieur Diakaté est aussi ancien député et président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Il a été exclu du parti pour avoir créé un courant parallèle afin, dit-il, de redresser la pente de descente sur laquelle s'est engagé le président Macky Sall. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagay.
Prise de position contre le chef de l'État, déclaration et soutien aux manifestations contre le gouvernement, Mustapha Diakaté s'est progressivement démarqué de la mouvance présidentielle jusqu'à la création d'un courant au sein de cette dernière. C'est d'ailleurs cet acte qui a précipité son exclusion du parti créé par le président Macky Sall. Pour Sokhna Maguette Ndiaye, responsable femme de l'APR, cette sanction contre ce membre fondateur est tout à fait justifiée.
Quand on est dans un parti, on doit incarner tout ce qui doit rendre le parti viable. Mais rester dans son coin et dénigrer le parti et dévoiler ses secrets, c'est comme si on n'était plus membre du parti. Cela signifie s'investir à moitié. Je pense que ceux qui sont au sein du parti doivent croire aux valeurs du parti même. Si certaines décisions ne plaisent pas à l'ensemble, on peut le régler en interne, mais pas le manifester à l'extérieur.
Du côté de l'opposition, on estime que l'ex-chef de cabinet du président Macky Sall a eu une attitude républicaine en prenant position. Pour Yoroseck du parti Réumi, cette exclusion montre les limites du système démocratique des partis politiques sénégalais.
Ça pose la problématique d'abord de la démocratie dans nos partis, mais aussi la liberté d'expression. Et maintenant, d'aucuns me diront, avait-il le droit en tant que militant discipliné, en tout cas de faire ce qu'il a fait, si les instances du parti marchent, parce qu'il n'avait pas le droit, en tout cas, d'exposer ces problèmes-là sur la presse. Si les instances du parti marchent, j'insiste là-dessus, M. Moustapha Diakhaté devait aller dans ces instances-là et donner son point de vue par rapport à un nombre de choses.
Le cas Moustapha Diakhaté n'est qu'un maillon d'une chaîne de révolte au sein du parti présidentiel. C'est du moins l'avis de l'analyste politique Sidiki Daf, qui estime que si ces dissensions continuent, la paire ne va pas résister après le départ de Macky Sall du pouvoir.
En fait, c'est vraiment un parti à problème. Bon, tu crois en fait que Moustapha est peut-être le plus médiatique? Est-ce qu'en fait son truc ça annonce un déclin? Je fais tout juste une hypothèse. En fait, la paire en tant que telle qu'elle est structurée, j'ai pas vu émerger un autre dirigeant autre que Macky. Donc je ne vois pas en fait quelle serait sa capacité à suivre après le départ de Macky. À moins qu'entre-temps qu'elle change. Mais en fait, la manière dont elle fonctionne, je ne vois pas. Et effectivement, c'est un parti qui est très compliqué quand on le regarde de loin. C'est en fait des querelles internes, des coques en jambes à n'en plus finir. Moustapha aussi, bon, s'est mis dans cette pagaille généralisée politique parce qu'une armée mexicaine, on ne sait pas qui est chef ou qui ne l'est pas.
Le parti du président Macky Sall est secoué par des querelles internes depuis plusieurs mois et se dirige inéluctablement sur la même voie qui a conduit le PDS d'Abdoulaye Wade à sa chute. Cependant, certains observateurs estiment que la paire devrait tenir tant que le président Macky Sall en assure le leadership. Au-delà, rien ne garantit la survie du parti. À Dakar, Sedina Bagay pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Alerte au coronavirus. La Chine a relevé aujourd'hui à 25 morts et à 830 cas le bilan de l'épidémie due à un mystérieux virus provoquant une grave maladie respiratoire, la pneumonie virale. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi la Commission nationale chinoise de la santé. Peu avant ce nouveau bilan, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait décidé de ne pas déclarer d'urgence internationale face à ce nouveau coronavirus. L'OMS demande à Pékin d'assurer que le confinement de millions d'habitants soit de courte durée. Précision de Jacques Aristide.
La réunion du comité d'urgence de l'OMS a duré 2 jours. Son directeur général dit ne pas déclarer pour l'heure une urgence de santé publique de portée internationale, mais Tedros Adhanom Ghebreyesus ajoute ceci. Ne vous y trompez pas, c'est une urgence en Chine. Ce n'est pas encore une urgence sanitaire mondiale, mais cela pourrait le devenir, avertit-il. La Chine a confiné quelque 20 millions d'habitants autour de Wuhan. Le patron de l'OMS estime que la Chine a pris les mesures qu'elle juge approprié pour contenir la propagation du coronavirus à Wuhan et dans d'autres villes. Il dit espérer qu'elles seront à la fois efficaces et de courte durée. Et pour l'instant, ajoute-t-il, il n'y a aucune preuve de transmission interhumaine en dehors de la Chine.
Au total, 13 municipalités ont pris des mesures de confinement dans la région de Wuhan, dans le centre de la Chine, métropole de 11 millions d'habitants, où l'épidémie a pris naissance le mois dernier. Un total de plus de 40 millions de Chinois sont confinés dans leur ville ce vendredi à la suite des mesures de protection contre la pneumonie virale. Actualité aux États-Unis maintenant, au troisième jour du procès historique du président Donald Trump devant le Sénat américain, l'accusation a assuré jeudi que le chef de l'exécutif méritait d'être destitué parce qu'il s'était pris pour un roi. Au lendemain d'une séance consacrée à exposer les faits, les procureurs démocrates se sont évertués à démonter les arguments avancés dans les médias par les défenseurs du président qui ne se sont pas encore exprimés à la barre. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
D'emblée, Jerry Nadler, qui est également président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a accusé le locataire de la Maison-Blanche d'avoir eu une conduite mauvaise, illégale et dangereuse. Le président Trump a commis un abus de pouvoir en demandant à l'Ukraine d'annoncer une enquête sur Joe Biden, son adversaire potentiel, à la présidentielle du 3 novembre, afin de le mettre à genoux, a plaidé M. Nadler. Pour lui, la destitution est la réponse ultime de la Constitution à un président qui se prend pour un roi. Les démocrates ont voulu prendre au mot les défenseurs de Donald Trump qui affirment que la procédure de la destitution n'est pas pertinente. Au total, l'accusation dispose de 24 heures sur 3 jours pour défendre son dossier. À partir de samedi, ce sera le tour de la défense pour la même durée. Puis les deux camps auront 16 heures pour répondre aux questions posées par les sénateurs par écrit. Ils devront ensuite décider à la majorité simple s'ils veulent prolonger l'exercice en convoquant de nouveaux témoins, comme le réclame l'accusation. Sinon, ils passeront au vote sur la culpabilité du président. Il faudrait une majorité des 2/3, 67 voix pour le destituer, un seuil a priori inatteignable, la Chambre haute étant sous le contrôle du Parti républicain de M. Trump.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.